Bien, bonsoir. Je vais donc parler ce soir de l'expérience du bonheur et du bon. Tout ceci à partir du chapitre 128 de Tehilim, dont j'ai écrit les deux premiers versets et la fin du dernier. Il y a en tout et pour tout 6 versets. Et il y a beaucoup de choses dans ce chapitre-là de Tehilim, et l'exposé sera complété en particulier par le troisième exposé, celui de Raymer Trancar à la recherche d'un temps perdu, à savoir le futur, et par l'exposé de clôture de Moshe Gronstein et l'auteur de Vargas sur savoir profiter de sa vie. Est-ce que c'est une définition du bonheur ou bien du super bonheur? Je vais donc commencer à traiter ce sujet et en même temps je vais essayer de présenter un peu le séminaire. Alors, pour que les choses soient plus faciles, j'ai écrit donc ces quelques versets. Donc, Shiramalot, ça veut dire c'est le chant des degrés. Ce sont des degrés, des marches, si vous voulez. Et le premier mot qui va nous intéresser, c'est ce mot de Ashrei, qu'on retrouve ici sous la forme Ashrecha. Et ce qui va jouer aussi un rôle, c'est le Tovlach. Ashrecha, on va donner une traduction provisoire. Ashrei comme étant le bonheur, Ashrecha c'est ton bonheur. Et en fait, on a donné comme titre effectivement cette expérience du bonheur et du bon. Bonheur, et ici Tov c'est le bon. Mais il me semble que dans ce chapitre-là, il faut ajouter le troisième terme qui est le shalom, qui est la paix, qui est la perfection, qui est une notion de complétude, en fait, des choses. Et plutôt que ce doublet de Ashrecha et Tovlach, je préférais considérer Ashrecha, Tovlach et Shalom comme un triplet, parce que je proposais d'utiliser le Shalom comme éclairage sur Ashrecha et sur Tovlach. Donc, effectivement, dans ce verset, les commentateurs standards font remarquer le kol ici. On parle ici de kol yirei Hashem. Donc, Ashrei, heureux, tout celui qui craint Hashem. Et ce tout ici, étant donné que le commentateur, étant donné qu'on trouve Ashrei Ish plusieurs fois, on pourrait penser que ça ne parle que d'un homme. Ici, le col vient mettre l'accent et dire qu'il s'agit évidemment aussi d'une femme, exactement comme d'un homme. Haolech Bidrachav, celui qui va, qui marche, qui avance, Bidrachav, dans les voies d'Hachem, dans les chemins d'Hachem. C'est ce premier verset. Et puis ensuite, on a un second verset qui parle de Yegia Tapecha. C'est l'effort, c'est le travail de tes mains, en fait. Il dit, lorsque quand tu mangeras le travail, fruit donc de ton travail, le travail que tu as accompli, alors tu atteindras ce Ashrei, cet état de Ashrei Kha et Tov Lecha, Tov Lach en fait, ici dans ce verset. Il y a donc quelque chose de plus qu'on a fait remarquer, qu'il y a d'un côté la Yira. Celle-là, la Yira, elle est liée avec Ashrei. Et Yegi Akapecha, c'est lié à la fois avec Ashrei, mais aussi avec Tovla. C'est-à-dire qu'on voit que, ici, à comparer les choses, la Yira, la crainte d'Hachem, apparaît ici comme, disons, inférieure à Yegia Kapecha, au travail, au produit de tes mains. Parce qu'effectivement, la Yira ne mène qu'à Ashrei, et les Chachamim vont apporter un distinguo entre Ashrecha et Tovlach. Ils vont dire que Ashrecha, on va dire Ashrecha, ce sera lié à Olam Hazé, ce monde-ci, et Tovlach, donc Ashrecha be Olam Hazé, dans ce monde-ci, dans ce monde. Et puis ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez vous promener? Non, vous voulez passer discrètement? Ah! On peut effacer, c'est pas grave. Ashrecha be'olam hazé, dans ce monde, et Tovlach, c'est le Olam Haba, pour, on verra après, pour le monde à venir. Alors, ça c'est Tovlach, et le vœu veut dire qu'on a à la fois Ashrecha et Tovlach. C'est-à-dire Yigia Kapecha donne les deux choses. On va revenir là-dessus. Et le point culminant, en quelque sorte, c'est Shalom en Israël, un état de Shalom, de paix, perfection, pour tout Israël. Ce qu'on voit en premier, donc, c'est cette notion de Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Littéralement, Yirat Hashem ici, Yirat Hashem. Bon, peut-être que dans d'autres exposés, on fera la différence entre Yirat Hashem et Yirat Elohim, la Yira d'Hashem, du tétragramme, et la Yira d'Elohim. Je ne vais pas entrer aujourd'hui dans cette distinction-là. Ici, c'est marqué clairement Yirat Hashem, c'est-à-dire la Yira du plus haut nom divin. La Yira de Shamaim, si je traduis Yira par peur, crainte, en fait, le phénomène de la peur est envisageable sous trois angles. Premièrement, ce qui fait peur, ce qui est redoutable, ce que les Chachamim désignent par Nora, comme on dit dans la Amida, qui est la Gadol, Gibor, Venora. Nora, c'est ce qui est redoutable, ce qui fait peur, donc. Deuxièmement, il y a l'avoir peur lui-même. Ce n'est pas qu'on craint un mal à venir qui serait d'abord constaté, puis ensuite redouté. Mais l'avoir peur fait référence à quelque chose qui est immédiatement dévoilé dans son caractère redoutable. Immédiatement, on est saisi, en fait. Et le troisième angle, c'est le pourquoi, en deux mots, le pourquoi de la peur. Pour ce soir, ce pourquoi de la peur, je voudrais le maintenir, si vous voulez, à ce sujet-là, uniquement au fait que ce qu'on veut désigné ici, c'est une peur par rapport à Hachem, et comme tout ce qui concerne Hachem, c'est exclusif. C'est-à-dire, cette peur-là, elle est là pour enlever toutes les autres peurs. Cette peur-là, elle élimine complètement toutes les autres peurs. Sinon, ce n'est pas Yirat Hashem. Si vous voulez, à ce niveau-là, la crainte d'Hachem est d'autre chose. Ce n'est pas une crainte d'Hachem. Ici, Hachem, toujours est. C'est toujours comme ça. Chaque fois que le nom divin intervient, il s'agit toujours de quelque chose d'exclusif. C'est-à-dire, c'est uniquement d'Hachem. Pour nous, il n'y a pas Hachem et quelque chose. Il n'y a pas de chitouf, si vous voulez, par rapport à ça, du tout. Donc, cette peur, le pourquoi ? Eh bien, parce que, effectivement, cette peur-là va éliminer toutes les autres peurs. Elle est donc une condition pour le Ashrei, une condition pour ce, on va appeler ici, bonheur. Sur cette peur, sur cette angoisse même, il y aura un exposé du Rav Eric Smilevitch, sur l'angoisse de la parole, à partir d'un pasouk de Michelet, qui dit, qu'on traduit en disant « Heureux l'homme qui a toujours peur ». Il s'agit ici donc de l'angoisse de la parole, ce sera le premier exposé de la deuxième partie. Cette deuxième partie d'ailleurs, elle est présentée comme étant une digression sur les Ashrei de la Torah ou de Tanakh. Dans la Torah, il n'y en a qu'un seul, c'est Ashrei HaYisrael. Mais dans le Tanakh, comme vous savez, surtout dans Tehilim, il y en a beaucoup. Et c'est présenté comme si c'était une digression. Tel que j'ai compris, je ne suis pas dans le secret de tous les exposés du séminaire, mais de ce que j'ai compris, ça me semble être, c'est en tout cas ce qui est écrit au début, ça me semble être absolument central, donc pas du tout seulement une digression, c'est vraiment central dans tout l'exposé. La Yirat Shamaim, cette crainte du ciel, elle entraîne Ashrei, ou Ashrecha si vous voulez. La Yira, elle est systématiquement utilisée dans la Torah par rapport aux interdits de la Torah, ce qu'on appelle les lot ha'aseh, ne fais pas, aux interdits. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que puisque Ashrecha est, dans la Gemara dans Brachot, présenté comme en rapport avec Olam Hazeh, dans ce monde-ci, ça veut dire que la Yira, elle a un impact dans Olam Hazeh. Elle a un impact sur moi, dans ma vie, dans ce monde-ci. C'est-à-dire uniquement dans ce monde-ci, semble-t-il. Chazal disent, le Tov Lach, comme je vous ai dit, c'est le Olam Haba. Il faut remarquer qu'il s'agit ici d'un le Olam Haba, et pas be Olam Haba. Ici c'est ba Olam Hazeh ou Olam Hazeh. Et pour Olam Haba, on ne parle pas de la situation dans Olam Haba. On ne parle que de ce qui dans Olam Hazeh ouvre le chemin, qualifie pour Olam Haba. Exactement comme on a dans la fameuse Mishnah que tout le monde connaît de la Haggadah de Pessah. Aussi, la vie l'Imot HaMashiach. Ce n'est pas la vie l'Imot HaMashiach. La vie l'Imot HaMashiach, c'est une dynamique en fait. Quelque chose qui mène à. Et ici on dit Tov Lach, ce n'est pas un Tov Lach. Ce sera bien pour toi quand tu seras dans l'Olam Haba. On ne parle pas du tout de la situation dans l'Olam Haba. On parle de ce que tu fais dans ce monde-ci te qualifie pour accéder à cet Olam Haba. Et ça c'est spécifiquement attaché à Yegia Kapecha, à ce travail, cet effort qui est fait. Un effort quasiment physique, qui semble-t-il ouvre plus d'horizons, si vous voulez, que la hira elle-même. Et les mafarchim expliquent que, en fait, ce Yegia Kapecha, on va voir que pour certains, ce sont les mitzvot assez elles-mêmes. Yegia Kapecha, c'est les mitzvot assez. C'est-à-dire les mitzvot positives, ce qui est à faire, par opposition à ce qu'on avait dit précédemment sur ce qu'il ne faut pas faire. Alors je vous ai dit que cet Ashrecha a l'air donc, si je, pour l'instant je continue à utiliser cette traduction de bonheur, si c'est un bonheur, Ashrecha serait donc lié à un bonheur, enfin c'est un bonheur qui serait lié, pardon, à une forme passive d'une certaine manière, à un ne pas transgresser. Et si ce qu'on va voir un peu plus loin, si le bonheur en fait, ou si vous préférez si Ashrei plus exactement, veut plutôt dire les chemins qui mènent à un état qui est un état rare, mais pas inexistant dans l'Amazé, mais c'est un état qui caractérise Olam Haba. Alors si donc le bonheur ici est dynamique, actif, alors on aura un peu de mal à le mettre en rapport effectivement avec cette passivité supposée à partir de l'OTA AC. Il faudra retravailler un peu cette question. Et surtout, ce que je vous ai dit, c'est que il me semble que plutôt que d'utiliser ce doublet là, je préfère utiliser le triplet qui aurait donc à son sommet la notion de shalom. Et dans cette notion de shalom, je voudrais retenir particulièrement le fait que le shalom, comme Chazal disent, c'est le seul véritable contenant possible pour des brachot. C'est-à-dire, sans shalom, toutes les brachot qu'on peut avoir, toutes les bénédictions qu'on peut avoir, elles n'auront pas de suite. Il faut un contenant pour ces brachot. Et le seul contenant réel, efficace, c'est le shalom. Alors du coup, on doit se demander, est-ce que le Osher, est-ce que Ashrei, en fait, et Tov, là, sont aussi des contenants ou est-ce que ce sont des contenus? Dans le shalom, il y a aussi un contenu. Mais l'accent ici, c'est que c'est un contenant extraordinaire. Alors, est-ce qu'on a ici affaire à une gradation de contenant ou est-ce qu'on a affaire à des contenus? Mais ces contenus eux-mêmes, ces bonheurs, ces bénédictions, en fait, vous voulez, elles ne serviraient à rien si on n'atteignait pas le shalom, parce que ça s'évapore, ça se dissipe complètement. C'est une question qu'on peut donc en tout cas laisser ouverte pour l'instant. Je voudrais maintenant lire un tout petit extrait d'un commentaire sur justement ces Teilim, un commentaire qui est dû à un certain Rav Vali qui était un élève du Beit HaMidrash du Ramchal, de Moshe Chaim Lutzato. Donc c'est un sefer qui touche à la Kabbalah, mais ce qu'on va en lire, en fait, ne fera pas directement allusion à cela. Ce que je voudrais surtout mettre en évidence dans cette lecture, alors, premièrement, il dit Variadoua, il dit on sait, fait partie de ce que tout le monde sait, c'est que s'il n'y a pas d'Irat Shamaim, s'il n'y a pas de crainte du ciel, alors, dit-il, Ein ma'asim tovim. Il n'y a pas d'action positive. Il n'y a pas de bonnes actions, il n'y a pas d'action réellement. Parce que la yira est un préalable à tous les degrés. Et ma'asim tovim, c'est un certain degré. Je ne vais pas traduire. On va traduire, si vous voulez, par bonnes actions, mais enfin, il ne s'agit pas de bonnes actions au sens habituel du terme. Et puis, ça c'est une chose, un premier point. Et puis un deuxième point, il met l'accent sur le fait que quand le pasouk dit « V'tov lach » Tovlach, ce sera bien pour toi. Il dit que Tovlach, il faut l'entendre dans le sens Vyoducha ki teitiv lecha. Ce que le Radak et d'autres expliquent en disant que le Osher, le bonheur en question, Ve'atov, et le bon, yé shelo, sont à lui réellement. Pourquoi? Parce qu'il les a acquis. Shekana oto, shekana otam, le'atzmo ba'amalo ve'giya kapav. Il les a acquis par son effort, par le travail de ses mains, littéralement. Velo derech matana vachesed kevatrila. Et ce n'est pas, ils ne sont pas chez lui en quelque sorte, à la suite d'une matana, d'un cadeau ou d'un chesed ou d'une bonté qui lui a été octroyée, comme c'était là, comme c'était le cas au début. Je veux dire la chose suivante. C'est quelque chose d'assez important pour la suite, que les midot, les qualités que quelqu'un a, qu'il a dans sa jeunesse même, qu'on peut déjà distinguer ces qualités, ce sont des qualités qui sont, disons, innées. Ces qualités-là n'ont pas beaucoup d'importance. Presque, ça n'a quasiment pas d'importance, puisqu'on n'a rien fait pour les acquérir. Ces qualités nous sont données pour que nous les acquérions. C'est-à-dire, elles sont données, elles sont là, mais il faut faire un travail pour qu'elles deviennent nôtres. Et le travail en question, c'est justement ce Yegia Kapecha, c'est Yegia Kapecha, ce travail que tu vas faire ici. C'est un travail pour acquérir, mais pas quelque chose qui est en dehors de toi. C'est quelque chose que tu as déjà en toi, mais qui est chez toi. Jusqu'alors, c'était sous forme de matana, de chesed. C'est déposé en toi, c'est de l'inné. Mais il s'agit de transformer ces midot, ces qualités, en des qualités que tu as acquises, qu'elles soient véritablement à toi. C'est ce que dit le Rav Ali, il dit chez Yushelo, véritablement. Elles sont là, ces qualités, avant, mais elles ne sont pas à lui, réellement. Parce que n'est à nous que ce que nous avons vraiment acquis par notre travail. Et on voit que ce qui qualifie, disons, même que ce soit pour le bonheur, ou que ce soit pour le tov, que ce soit pour Olam Hazeh, ou bien comme qualifiant pour Olam Haba, c'est uniquement la résultante du travail qu'on a fait. Là, on peut dire la même chose sur la Yirat Shamayim. Il y a une crainte naturelle, une crainte pour laquelle on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Mais ce n'est pas de celle-là qu'il s'agit. Il s'agit d'une crainte qu'on a fait naître, quasiment. Pourquoi? Parce que on a mis en évidence, on a fait en sorte qu'il y ait du nora, qu'il y ait du redoutable. On a accepté du redoutable. On a posé devant nous en quelque sorte, Hachem en l'occurrence ici, comme étant redoutable. C'est un travail que nous faisons. C'est un travail qu'il faut faire en permanence. Cette ira-là, probablement qu'il existe une forme faible de ira que tout le monde a, que les enfants ont éventuellement même à la naissance. Mais on peut très bien passer par-dessus. Si on ne travaille pas, ça peut disparaître parce que ce n'est pas très, très, très développé. Il y a un travail de tout un travail pour développer cette Yirat Shamayim, cette Yirat Hashem. Alors, jusqu'à présent, j'ai utilisé ce mot de Osher. Osher, vous savez, il existe deux mots qui sonnent un peu de la même manière. L'un qui s'écrit Osher avec un Aleph, et il y a une écriture avec un Ain qui veut dire la richesse en fait. La question, la Mishnah entre autres, pose la question de Ezehu Ashir, qui est riche. C'est la réponse à sa mère Bechelko, celui qui est en joie, qui est rempli par ce qui est sa part personnelle. Mais la question n'existe pas sur l'autre. Il n'y a pas de question de poser par hasard Ezehu Meouchar, qui est Meouchar, donc qui serait l'équivalent de qui est heureux, qui me permettrait de donner une définition de ce bonheur. Donc, en fait, on ne sait pas, on a traduit par bonheur, mais on ne sait pas vraiment quel est le contenu de ce mot, de ce osher, c'est ce qu'on a traduit par bonheur pour l'instant, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Dans osher, certainement en parenté avec la notion de Ishur, avec la notion de permission, de validation, un processus. Et du coup, les questions, deux questions viennent. Est-ce que chacun peut accéder à cela? Est-ce que tous peuvent y accéder ensemble? Ces questions-là, elles sont particulièrement traitées, je pense, dans l'exposé de Jean-David Messica. Y a-t-il un seul bonheur pour tous? Et celui de Bruno Carcenti, bonheur public, bonheur privé. La question de savoir comment on réagit au bonheur de l'autre. Ça soulève évidemment tous les problèmes de l'injustice, de l'inégalité, de la chance. Je vous ai dit dans la Torah, il y a une occurrence de Ashrecha, c'est Ashrecha Israël. Il y a une occurrence d'un verbe, une forme verbale qui est, semble-t-il, du même, qui doit avoir le même sens, qui Shuni Banot, c'est Léa qui parle, et on va voir si ce terme-là fait référence à quelque chose qu'on a fait par soi-même. Ce Yishruni, c'est quelque chose qu'on a fait par soi-même ou quelque chose qu'on a reçu sans référence à un mérite quelconque. Encore une fois, de nouveau, est-ce que c'est Yegia Kapecha ou est-ce que c'est de l'inné? C'est quelque chose qu'on a, mais qu'on n'a pas du tout travaillé pour avoir. On n'a pas travaillé pour l'obtenir. Ce n'est pas le fruit d'efforts. Pour donner un exemple, mais dont on va voir tout de suite qu'il n'est peut-être pas tout à fait adéquat, la sortie d'Égypte, elle est présentée dans les Sfarim comme étant la conséquence de ce qu'on appelle Haruta de Leila. Littéralement, ça veut dire d'un éveil d'en haut. Ça veut dire que tout est parti de la volonté divine. La sortie d'Égypte n'est pas la résultante d'une action d'Ebné Israël. C'est pas qu'Hachem a fait réussir une action d'Ebné Israël. Ebné Israël, c'est déjà en soi même, d'ailleurs, un abus de langage à ce moment-là, mais de les voir comme une entité. Mais ce n'est pas du tout qu'Hachem a fait réussir leur volonté de sortir d'Égypte. Il a fallu qu'Hachem les incite à vouloir sortir. Il a fallu les éveiller à la sortie, en fait. Éveiller un désir de liberté. Certains disent que le carpas qu'on mange comme apéritif le soir du Seder, c'est un apéritif pour ouvrir l'appétit à la liberté. Et cet appétit à la liberté, il s'est ouvert par les fameuses herbes amères. C'est-à-dire parce que Hachem a donné un tour de vis supplémentaire qui a rendu la situation qui était très difficile, mais dans laquelle chacun avait trouvé plus ou moins sa place, ou une place où ça faisait un peu moins mal. Et Hachem a donné un tour de vis supplémentaire quand Moshe Rabbeinu est intervenu. À ce moment-là, tout le monde a été déséquilibré et c'est devenu intenable. Et à ce moment-là, ils ont commencé à crier. À ce moment-là, ils ont commencé à prier. Donc, l'étincelle de départ est venue d'en haut. Donc on pourrait dire, ben voilà, c'est ça le prototype de quelque chose qui est donné sans qu'on ait rien fait pour cela. Et puis ensuite, pour qu'ils puissent sortir, alors ils aient un mérite, pour qu'une certaine manière ils acquièrent ce qu'ils y soient pour quelque chose. Alors on leur a donné les deux mitzvot de Mila et de Korban Pessah, ces deux mitzvot qui sont liées au sang. Mais en vérité, on ne peut pas dire que l'Ebné Israël y soit réellement pour rien. Puisque Hachem lui-même leur dit, je ne vous sors pas d'ici, de cette Égypte, parce que vous avez trop souffert. Cette souffrance ne vous qualifierait pas pour sortir. Je ne vous sors de là que parce que je l'ai promis à vos ancêtres ou à vôtres. Donc, c'est pas complètement gratuit. Ou on pourrait dire que c'est une forme d'hérédité de caractère acquis par les avôtres. Cette situation elle sera traitée aussi par l'exposé de Moshe Gronstein et Julien Anoka, qui s'appelle Le bonheur d'une certitude, à partir justement d'Oshri qui Shuni Banot. Donc c'est par mon bonheur que les filles m'ont loué. C'est une traduction. Si le bonheur est un état, la question se pose, est-ce qu'on peut définir un ou des chemins pour y accéder? Alors peut-être que, en prenant appui sur ce que dit Rav Shimshon Refael Hirsch sur les noms de Gad et d'Asher, Hirsch explique que Asher, ça correspond au chemin. D'ailleurs, probablement que le fait que le mot Asher, comme qui veut dire le que, QE, il indique cette idée, cette notion de chemin. Et le bonheur lui-même, le bonheur, éventuellement la chance, c'est Gad. Là, c'est un état. Et on pourrait penser que Asher, justement, le prénom d'Asher indique un chemin, et donc le Osher, que ce qu'on a traduit par bonheur, en vérité, c'est plutôt un chemin vers le bonheur. Et puis, il y a un état, qui est l'état de Gad, enfin, qui est représenté par Gad, dont on peut penser que Asher est un chemin qui mène à Gad. Pas sûr non plus. Peut-être qu'à partir de Hirsch, on peut construire cette idée-là. L'état, si c'est un état, l'état de bonheur, donc, on doit se demander si c'est un état, c'est un état figé. Si c'est comme ça, c'est quelque chose qui serait comme un état de mort. Et alors, est-ce que l'important, c'est pas plutôt que d'atteindre cet état-là, c'est plutôt d'être sur le chemin qui y mène, même si, a priori, dans ce monde-ci, on a quasiment aucune chance d'y arriver. Et quasiment parce que la Gemara décrit une situation qu'on verra probablement dans d'autres exposés, de gens qui, tout en étant dans ce monde-ci, se trouvaient aussi dans le Olam Haba. Il reste évidemment à expliquer ce que ça peut vouloir dire. Donc le corps du séminaire est construit, il est formé par les Ashrei de David HaMelech. C'est Ashrei. Qui est-ce qui a commencé? Est-ce que c'est David HaMelech qui a inventé ces Ashrei là? On peut répondre tout de suite, non, je vous ai dit, c'est marqué Ashrei Ha Israël. On a tort. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un peu plus parce que Ashrecha Israël, quand on parle dans tout à la fin de la Torah, on parle d'Israël en tant que peuple. Donc c'est un singulier, Ashrecha, et c'est un singulier qui désigne un peuple. C'est un singulier qui désigne un pluriel en fait. Mais on utilise, David HaMelech utilise Ashrei pour désigner, pour qualifier une personne unique, Ashrei Ish ou Ashrei Ha'ish. Qui est-ce qui a inventé cette tournure plurielle construite? Est-ce qu'il existe une forme, est-ce qu'il existerait véritablement une vraie forme singulière, enfin singulière, mais le singulier de ce Ashrei là, qui est pluriel? Mais comme je vous ai dit, hein, puisque David HaMelech utilise Ashrei pour dans Ashrei Ish ou Ashrei Ha'ish, le Ashrei a l'air d'être invariable. Alors il y aura effectivement un exposé sur l'étymologie d'Ashrei, un exposé de Yonah Abitbol dans le quatrième cycle. Le Tov, c'est quelque chose que c'est un mot que la Torah fait apparaître dans une parole d'origine divine. Hachem parle et il dit Tov. Le Osher, a priori, ça n'est pas un terme utilisé par Akadosh Baruch Hu. Si Osher par rapport, Osher, Asheri, par rapport à Tov, il faut le lire comme quelque chose d'un état stable, alors peut-être cela veut-il dire que l'état stable n'existe pas pour l'homme, si ce n'est dans Olam Haba. C'était possible pour Adam Arishon au moment où il a été créé, parce que pour Hachem évidemment il n'y a pas de différence. Néanmoins, dans le courant en quelque sorte des termes de la Torah, il n'y a pas d'utilisation dans une parole divine de ce terme de Osher, de Ashrei, sauf dans Ashrei Ha-Israël, où de toute façon c'est Moshe Rabbeinu qui parle. C'est dans Sefer Dvarim, même si Moshe Rabbeinu est inspiré, ici ce ne sont pas des paroles directement, venant directement d'Hachem. C'est une inspiration de Moshe Rabbeinu. Dans le deuxième exposé, celui d'après Pourim, duquel Seban parlera de la question entre utopie et réalité, pourquoi choisir. Il faut juste ajouter que dans l'histoire, l'utopie est toujours, pratiquement toujours, a toujours été quelque chose de mortifère. Ces recherches de ce qui était tous les ismes, etc., toujours, ça a toujours été mortifère. Et si la question se pose de choisir entre utopie et réalité, si on ne peut pas apporter une preuve que l'utopie n'est pas toujours mortifère, alors la question ne se posera pas. On ne peut pas avoir à choisir entre quelque chose de mortifère et la réalité. Certains veulent donner comme définition du bonheur comme disant que c'est un état durable de plénitude, de satisfaction qui est agréable et équilibré de l'esprit et du corps et d'où la souffrance, l'inquiétude et les troubles sont absents. Vous savez bien que parmi les philosophes, certains pense que le bonheur est possible. Montaigne, Spinoza, certains pensent qu'il est même facile, comme Épicure, et puis d'autres pensent qu'il est difficile, c'est Rousseau, ou même impossible, c'est Freud. La recherche du bonheur, elle est condamnée par les plus grands philosophes. Kant ou Nietzsche qui dit qu'en réalité, il faut lui préférer l'expérience de la joie. Et sur cette joie, effectivement, dans l'exposé de Yonah Habitbol, de la joie au bonheur, on verra ce que la Torah a à dire justement de ce que c'est de ce bonheur qui serait plus que la joie. Je dis que Épicure considère que c'est facile. Il dit aussi qu'on ne peut pas être heureux sans être sage. Ce problème, la sagesse, le rapport entre la sagesse et le bonheur, sera traité par Jean-Claude Boer à partir d'un passouk de Michelet. Dit heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Ce qui Il y en a qui considèrent que par plus de sagesse, on peut être capable de bien agir et d'être dans la joie, ce qui pour lui est essentiel. La simcha, dans la Torah, c'est aussi quelque chose d'absolument essentiel. On ne peut pas servir Hachem dans la tristesse. Le Gaon de Vilna dit que la tristesse, c'est un moum. C'est-à-dire, c'est un défaut qui est rédhibitoire pour le service d'Hachem. Je ne sais pas de quel texte de Hannah Arendt Bruno Carsanti va parler, mais dans son journal de travail, elle rapporte que Kant avait un critère assez étrange. Il utilisait l'expression « être digne d'être heureux ». Évidemment, on ne peut pas, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir ici comme condition de recherche cette dignité qui est une, on pourrait s'y retrouver comme une partie en tout cas de la Yirat Shamayim. Mais à ce moment-là, ce serait comme si cette Yirat Shamayim était un contenant. C'est comme si ce bonheur lui-même était un contenant et pas seulement un contenu. Et ce même Kant, il a besoin d'un intérêt supérieur qui s'oppose à la sensibilité. Lui, il appelle ça le mobile. Dans Yirat Shamayim, ou Yirat Hashem, Hashem est effectivement cet intérêt supérieur, ce mobile, quelque sorte. Le mobile, c'est de s'approcher justement d'Hashem. Elle présente les choses de la manière suivante. Elle présente l'autarcie de l'homme et elle dit que la priorité de la vertu sur le bonheur, c'est que le bonheur comprend tout ce que la nature peut nous donner. Ça serait Ashrecha Be'olam Hazeh. Et la vertu comprend ce que nul autre que l'homme lui-même ne peut se donner ou se retirer d'ailleurs, Tov l'ach le olam haba. Donc c'est l'ach, ça dépend uniquement de toi. Ça dépend de l'homme lui-même, c'est l'homme qui se fabrique son. Le olam haba, c'est quelque chose qu'on se fabrique. C'est quelque chose qui n'est pas donné comme tel. C'est pas quelque chose qui existe comme tel, c'est quelque chose qu'on doit construire. Et donc, par suite de cela, elle rapporte que pour Kant, on peut être citoyen seulement si on est son propre maître. C'est-à-dire, moralement parlant, ça veut dire seulement si, si on est vertueux. Et matériellement parlant, si on possède une propriété, une technique, un métier, un art, une science, mais dit-elle, à l'exclusion de la possession de la force de travail, parce que celle-ci n'est pas acquise, elle est donnée, justement. C'est de l'ordre de l'inné. Elle appelle ça un don de la nature. Ça correspondrait dans le domaine de la morale au bonheur. Au bonheur, mais c'est-à-dire dans l'olam hazeh seulement. Dans Shrecha be'olam hazeh uniquement. D'autres que psychologues ou que Freud pense que il s'agit d'un sentiment naturel, que la psyché humaine éprouve lorsqu'elle s'épanouit d'une manière intégrale. Il suppose une forme de culture qui est fondée sur l'amour et l'être plutôt que sur la peur et l'avoir. J'ai vu, je ne sais plus où, que Daniel Kahneman, je crois, qui a dû avoir quelque chose comme un prix Nobel d'économie ou quelque chose comme ça, fait une enquête sur plus de 1100 Américains et il est arrivé à la conclusion qu'une augmentation de salaire, par exemple, ne correspond pas à une augmentation significative du bonheur. Ce qui impliquerait qu'on sait ce que c'est que le bonheur. D'autres disent que la petite taille et l'homogénéité de la société comptent beaucoup pour le bonheur. Donc, constituer une société de confiance. Une micro-société où règne la confiance. La Emouna. Et peut-être, ceci c'est un sujet sur lequel effectivement il faudrait peut-être rentrer. Parce que si on va dans le sens de la mondialisation, alors, d'après ça, on ne peut pas atteindre le bonheur. Parce que la société est beaucoup, beaucoup trop grande. C'est possible que si on se restreint, il peut y avoir un bonheur à l'intérieur du peuple juif. Ce serait une justification du fait que le peuple juif est toujours resté un très petit peuple, à l'intérieur duquel la Emouna est possible. C'est pas qu'elle a toujours régné, qu'elle règne toujours, mais la Emouna est possible. Maintenant, si on ouvre complètement l'humanité tout entière, peut-être que c'est effectivement impossible. Non, ce ne sont jamais que des raisonnements un peu statistiques. On fait une distinction entre Ashrecha et Tov Lach. Il se trouve que dans Ashrecha Israël, le Targum de Onkelos traduit Ashrecha par Tov. Donc il brouille complètement les pistes. Il y a un midrash. Le midrash est le midrash rabba. Hein. Qui, justement, sur Ashrei Kol Yirei Hashem, le midrash rabba dit, de qui parle-t-on ici? Qui veut-on inclure? Je vous ai dit, certains veulent inclure avec le Kol qui veut toujours inclusif. Veulent inclure les femmes parce qu'on pourrait éventuellement déduire de Ashrei Ish que seuls les hommes auraient part. Le Midrash lui ne dit pas cela. Le Midrash Rabba dit que ce qu'on vient inclure ici, ce sont Hagerim Yirei Hashem. Les Gerim qui sont Yirei Hashem ont le même Ashrei, ont le même Osher, le même bonheur que les Bnei Israël. Il dit, de quel guérim s'agit-il? Il s'agit évidemment de guerre tzedek et non pas des koutim, non pas des koutéens, donc ceux dont le Passouk dit qu'ils craignaient Hachem, mais que néanmoins ils servaient leurs idoles. Yegia Kapecha, c'est un verset qui est dit justement à un guerre qui pourrait se dire, mais j'ai malheureusement pas de Srout Avot. Il s'est converti là, donc il n'a pas d'ancêtre de ce point de vue. Donc j'ai pas de mérite. Et qu'ils ne se disent pas, n'ayant pas ce mérite des ancêtres, tout ce que je fais ne peut me donner de salaire que dans ce monde-ci. Le verset vient annoncer aux guérim que par leur mérite propre, ils auront à la fois Olam Hazeh, Olam Haba, dit le Midrash. Le Midrash vient dire que justement, on n'a pas besoin, si on fait le travail par soi-même, évidemment il faut le faire par soi-même, mais à la limite, on n'a pas besoin d'avoir recours au mérite des ancêtres qu'on n'a pas. Fais tout ce que tu peux faire, dit Kohelet. Le salaire, Ashrecha v'tovlach. Tu auras tout. Olam Hazeh et Olam Haba. Ne t'occupe pas de savoir si tu as un arrière-plan, des arrières qui te permettent de penser que tu as une aide qui te vient, que de toute façon tu pars à partir d'un. Tu pars avec un certain capital. On peut partir de soi-même, avec soi-même. Et on y arrive aussi bien. De toute façon que je n'ai pas écrit ici, il parle de Eshtecha, que le Midrash dit comme étant l'épouse justement du guerre, qui s'est convertie en même temps que lui. Alors le Midrash dit, elle est exactement comme l'Evnot Israël. Et lorsqu'elle respecte ce qu'on appelle Da'at Yehudit, c'est-à-dire lorsqu'elle est tznoua, lorsqu'elle a une attitude réservée, alors ses enfants seront au même titre que les enfants d'une femme qui est née juive et qui respecte elle aussi, à condition qu'elle le respecte, ce qu'on appelle Da'at Yehudit, des enfants qui seront des Baalei Mikra, Mishnah et Umaasim Tovim, des enfants qui seront aussi grands que les enfants de n'importe qui. Cette idée de Ashrecha v'tovlach, elle est reprise par le Rambam. Le Rambam dans Hilchot Talmud Torah il dit Ma'ala Gdolahi. C'est-à-dire, c'est d'un très haut niveau. Le mi sheumit parnes mi maase yadav. Celui qui effectivement a sa parnassa, c'est-à-dire il a de quoi vivre grâce à son travail. C'est Yadav, c'est le travail littéralement, un travail d'artisan, un travail physique. Il dit Umidat Chassidim Arishonim. Et ce qu'on appelle les Chassidim Arishonim, littéralement ça veut dire les premières personnes pieuses. Chassidim Arishonim, c'est pas toujours très clair, enfin, en tout cas c'est d'il y a très longtemps. Parce que les Tanaïm eux-mêmes parlent des Chassidim Arishonim. Eux disent déjà Chassidim Arishonim, les premiers. Ça, c'est vraiment très haut dans l'histoire. Mais c'était comme ça qu'ils faisaient. Ubeze, dit Ramba. Par cela, par ce travail, Zoche le chol kavod vetova sheba olam haze, ou le olam haba. Il acquiert tout le poids et tout ce qu'on peut avoir de bon dans ce monde et pour le monde à venir. C'est marqué dans notre pasouk, Yegia kapecha kitochel, Ashrecha betovlach, Ashrecha beolam hazeh, betovlach leolam haba, shekulotov. Un des noms du olam haba, c'est un monde qui est entièrement tov. Et dans Ilchot Tzchiya ou Matana, le Rambam rapporte, il dit « Atzadikim agmurim » ceux qui sont tzadik gamour, c'est-à-dire des tzadik absolus, ve'anshe ma'ase, et les hommes d'action, en fait, lo yekablu matana me'adam, ils n'accepteront aucun cadeau de qui que ce soit. Et la botrim bashem baruch shemo velo ben dibi, ils auront confiance en Hachem, qu'on soit béni, et pas dans ceux qui vont leur donner des choses, comme c'est marqué, Vesone Matanot Yichye, que celui qui hait les cadeaux, il vivra. Et le Maguid Mishneh ici rapporte que la source de ce Rambam, c'est nos psukim et la Gemara dans Brachot, dont on parlera. Donc, il vous sera présenté dans le troisième exposé, et dans le dernier aussi d'ailleurs, dont on a déjà parlé plus haut. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on n'a pas de définition très claire pour l'instant. Je pense que si on avait tout de suite une définition, on pourrait arrêter le séminaire. De ce que c'est que le hocher, je vais donner un peu de pistes. Que les midot qu'on nous donne, elles sont données, et ça n'a pas beaucoup de valeur en soi tant qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour les acquérir, comme on a vu de ce Rav Bali. Qu'en fait, il faudra développer probablement le rôle que le shalom joue par rapport au Osher et au Tov, et tout part de la Yirat Shamayim. Rien ne commence, semble-t-il, si on n'a pas acquis d'abord cette Yirat Shamayim. C'est aussi une acquisition qui est aussi quelque chose qu'on n'acquiert que en travaillant, même si on peut imaginer qu'on a une certaine Yirat naturelle, mais l'important c'est de la développer pour en faire quelque chose. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions.
Vous avez parlé que l'homme peut atteindre un état stable dans le monde futur. Vous dites que l'état stable de l'homme n'existe pas, sauf dans le monde futur.
Cet état stable-là qu'on appellerait bonheur, disons. Voilà. Oui.
Mais en fait, l'état stable, c'est lié à la mort aussi. Là.
C'est ça. Ce qu'on a dit, c'est que d'après cela, on a un peu l'impression que le bonheur ne serait accessible que. Enfin, que le bonheur soit une situation liée à la mort. On dit, hein, situation figée, si le bonheur est quelque chose de ce genre-là. Donc, en fait, si c'est cela, alors. En fait, le bonheur en lui-même est quelque chose, c'est une visée, mais l'important c'est d'être sur le chemin qui mène à ce bonheur, mais ce bonheur-là il est atteignable uniquement après la mort, quelque chose à ce moment-là, et donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec notre vie à nous. Donc l'important c'est d'être sur un chemin qui mène à un état de bonheur. Mais c'est plus important, le chemin est plus important que, disons pour nous, que d'y arriver, parce qu'en fait on n'y arrive pas non plus. Parce que si en y arrivant, si c'est l'état de la mort, en fait.
Si on n'a pas Yirat Shamayim, ça veut dire que ceux qui n'ont pas Yirat Shamayim ne peuvent pas accéder au bonheur.
C'est ça. D'après ce que dit. D'après ce que Rav Bali, par exemple, a dit aussi, il a dit qu'il n'y a même pas de ma'asim tovim. Il n'y a pas de bonnes actions sans Yirat Shamayim.
Alors, ça veut dire que, puisqu'on dit Kol Bidei Shamayim,
Kol Bidei Shamayim, oui.
Ça veut dire que ceux qui seraient en dehors de la Yirat Shamayim seraient dans un espèce de processus de déterminisme.
Tout à fait, oui.
C'est ça. Dans le hacheret et dans le tov.
Oui, c'est, alors, c'est, oui, c'est un cadre. C'est cadré, oui.
Donc ce serait l'évitement, la perversion, etc., puisque on serait dans le...
C'est ça. Fait une distinction entre Shrina et Hachem. Qu'est-ce que tu veux dire Shrina? Tu veux dire la présence divine dans le monde? Non, parce que sinon la réponse est là. Si on dit que c'est obligatoire d'en passer par Yirat Shamayim pour arriver à cela, alors tu as la réponse à ta question. Donc j'essaye de savoir exactement ce que tu veux mettre entre les deux. Si tu entends par présence de la Shrina, enfin présence divine dans le monde, si tu le lis effectivement avec la joie, alors effectivement, sans joie, il n'y a pas de, comme on avait dit, sans joie, il n'y a absolument pas de service divin possible. On ne peut pas servir Hachem, comme on l'a vu. Sans Simcha, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de, pardon, pas de service divin possible, donc il ne se passe rien, de quelque sorte, on ne peut pas faire de Maasim Tovim, rien du tout. Et donc, effectivement, il n'y a pas de bonheur possible. Donc, c'est sûr que si on identifie la présence de la Shrina avec la possibilité d'accéder à la Simcha, réellement, alors, effectivement, c'est absolument lié.
C'est Hachem qui le dit à la création du monde. On voit que David Amelak a dit Tovi Torah Pecha.
Oui, non, c'est ce qu'on veut dire, c'est que même Hachem utilise le mot Tov. Que les hommes utilisent Tov, c'est clair, c'est bien sûr. Mais même Hachem utilise Tov, tant que je ne crois pas qu'on. Je n'ai pas même vérifié, mais j'ai fait confiance à Moshe qui me l'a dit, qu'on ne trouvait pas Hachem dans.
C'est plus ambigu la notion de Tov pour Hachem.
C'est
plus ambigu. Parce que quand on remonte à la création du monde et que Dieu crée et qu'à un moment donné il se pose et il dit c'est Tov, c'est pas ambigu, c'est pas le terme ambigu. C'est un Tov qui est forcément différent de notre Tov. Parce que je veux dire que Dieu crée quelque chose et puis après il. On a l'impression qu'il prend du recul et il dit c'est bon ce que j'ai fait, mais il n'y a pas de recul pour Dieu, quoi. Donc il n'y a pas de passé, de présent, futur, donc c'est difficile à comprendre ce temps pour Dieu, j'ai envie de dire. Le temps de Dieu est difficile à comprendre pour l'homme, voilà, plutôt. Non, je suis clair.
Non, c'est bien, c'est... Oui. Je pensais à un jour, un physicien qui s'appelait Wolfgang Pauli, qui est prix Nobel de physique, il fait une démonstration au tableau, et puis après il s'assied, il dit « Oh, qu'est-ce que j'ai bien fait ici !» Il commence à la copier. C'est un peu... Bien sûr que pour Hachem, tout ce qu'il fait est tof, est bien, mais ce qu'on veut dire ici, c'est toujours un bien par rapport à l'homme. C'est pas du tout que c'est bien pour ou bon pour lui, il n'y a pas de... tout ce qui est dit est toujours pour l'homme. Donc le Tov, c'est pas le Tov d'Hachem, si on veut. C'est juste que ces mots, comme parole divine, le mot Tov existe, alors que le mot Osher ou Ashrei, etc., semble-t-il, n'existe pas. Si on dit que Ashrecha, hein, comme je vous ai dit, c'est Moshe qui l'a dit. Parce que c'est dans Dvarim, donc c'est Moshe qui le dit, inspiré par Hachem, mais c'est pas comme le reste de la Torah où c'est Hachem qui parle par la bouche de Moshe. Donc c'est faire Dvarim, c'est Moshe qui parle, inspiré, mais c'est pas la Shrinam d'Aver et Pitor Grono, comme on dit, donc, pour le reste de la Torah.
Je pense que par rapport à l'idée de la Pécha, il faudrait introduire la notion de liberté, parce que si dans un travail on ne mange pas Kitochal, c'est des Kitochal.
Kitochal, oui.
Kitochal, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir manger, c'est-à-dire manger ce travail. On peut faire un travail demain.
Ici, on voit le travail dont il s'agit, dont parle le Rambam. Il dit que les Hasidim Arishonim, les Tzadikim Gmurim, faisaient comme ça. Ça veut dire que c'est un travail de. Ce qu'on en sait, c'est que c'est un travail de forgeron, un travail d'artisan. Ce qui permet de manger, mais ça ne veut pas dire qu'on mange le travail. C'est que quand tu entretiens, tu as ta parnassa, comme le Rambam l'a traduit. Tu as ta parnassa, c'est-à-dire tu mets de parnasse, tu produis selon tu as besoin. Alors tu produis quelque chose, tu le vends et tu auras l'argent pour acheter ton pain. Tout le monde n'est pas boulanger.
C'est pas lié à la puissance de ce travail.
Non, mais ce qu'on veut dire ici, c'est si tu en arrives à être autosuffisant, n'est-ce pas? C'est ça que ça veut dire. Autosuffisant. Je m'entends, c'est bien sûr qu'on a besoin de Siyata Dishmaya. Mais le problème, c'est ne pas, comme le Rambam l'a dit, que les Tzadikim Gumurim, ils n'acceptent pas de Matana. C'est-à-dire, ils veulent vivre avec ce qu'ils sont capables de produire par eux-mêmes. Toujours avec, comme Yaakov Avinu l'a dit, comme il dit, si Elohim me donne Lechem Lechol ou Begel Lilbosh, si Hachem me donne du pain à manger et des vêtements pour m'en vêtir, il veut dire par là, si de mon travail il résulte que j'aurai à manger, que je serai couvert, etc., alors c'est extraordinaire. C'est comme si extraordinaire, il y a beaucoup de gens qui mangent. Oui, mais ce que Yaakov avait nous veut dire, je veux le voir uniquement comme venant d'Hachem, c'est-à-dire c'est mon travail et c'est Hachem qui le fera réussir et pas être dépendant de qui que ce soit. Ne pas recevoir, ne pas se construire avec des choses qui sont données par quelqu'un d'autre. C'est une autarcie, en fait.
Dans l'Ikra, ça nous donne Ashrecha de Toblach, d'après le passage des Teilim. Là, je me suis demandé pourquoi on aurait besoin justement de cette condition de Yirat Hashem, puisque avec Yagia Kapecha, on a les deux.
Ah, mais parce que en fait ce qui se passe, c'est que tu auras le Osher, mais ici cet Hashirut, c'est vrai, tu peux dire ce Osher plutôt que l'Hashirut, c'est ce Osher là, effectivement, l'Aïra le donne, Yegia Kapecha le donne aussi. C'est pas qu'on a besoin de Ira, mais en vérité Yegia Kapecha sans Irat Elohim, c'est pas ça Yegia Kapecha. Yigia Kapecha, c'est pas sans Yira. C'est-à-dire que c'est quelque chose que. C'est une démarche ici qui inclut la Yira. L'accent est mis sur le fait que Yigia Kapecha te donne pas seulement un Ashrei qu'on pourrait avoir par Yira, mais l'en plus de Yigia Kapecha par rapport à la Yira, c'est que ça donne aussi Tovla. Ça donne Tovla. Je pense que, effectivement, c'est une bonne remarque. Peut-être qu'il faudrait bien expliciter en quoi cette Yiga Kapecha et cette Yirat Hachem, en fait, sont liés, enfin, l'un est inclus dans l'autre. Qui en même temps étaient idolâtres. Justement, c'est qu'en fait, ils étaient... On peut comprendre que ils savaient que les choses dépendent d'Hachem. Seulement, ils pensaient que Hachem délègue, comme le Rambam le décrit dans Avodah Zarah, que Hachem délègue et qu'il a confié à des divinités intermédiaires, enfin, je m'entends par des intermédiaires, mais à des divinités, le soin de gérer telle et telle partie du fonctionnement du monde. Et donc le service doit s'adresser au gestionnaire. Pensez que, parce que c'est très difficile, c'est un des grands problèmes de l'idolâtrie en fait, c'est que c'est difficile de servir Hachem. L'homme dans son service, il a envie de donner, il a envie de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut donner à Hachem? On ne peut rien lui donner, tout est à lui. Donc on peut imaginer que Hachem, ils ont imaginé que Hachem ayant délégué, bon ben alors, je négocie avec le délégué. Et donc ils servent le délégué, tout en sachant pertinemment que ce délégué ultimement dépend d'Hachem. Mais néanmoins, le service qu'ils peuvent donner, c'est un service qui leur apparaissait possible uniquement pour les délégués, uniquement pour des choses qui sont à leur portée, en fait. Voilà, ça a un sens de faire des choses. Servir Hachem, pour nous aussi, c'est difficile de comprendre comment... Qu'est-ce que c'est que le service d'Hachem? Parce que le chidouche, la nouveauté qu'il y a à dire qu'on peut servir Hachem en apportant les corbanotes, c'est loin d'être évident. Bon, c'est-à-dire c'est tout le travail qu'il faut faire quand Hachem va dire c'est mon pain, les corbanotes c'est l'achmi, c'est mon pain. Bon, faire tout le travail qu'il faut faire pour entendre ce que toutes ces... et tous les anthropomorphismes que ça implique, etc. C'est un énorme travail. C'est un travail même désagréable en réalité. Et c'est un travail dangereux.
C'est pour ça un problème de dire que les victimes participent ou...
Non, justement, ils n'ont pas. On les a exclus, eux.
Ils sont
de l'HM,
puisqu'ils
craignent. Non, oui, mais c'est justement. Alors, c'est ce que le Midrash dit. Kol vient dire. Vient inclure les guérim, mais quel guérim? Le guérim Tzedek et pas les koutim, qui sont des guérim mais pas des guérim Tzedek. C'est ça que le Midrash dit justement. Il prend la peine, si on veut, de dire j'inclus ici les guérim mais pas les koutim. Parce que les koutim, le verset dans Malachim dit que eux, effectivement, c'est vrai qu'ils avaient Yad Hashem, donc on pourrait penser sont inclus, mais le verset dit, ils ne servent pas Hachem, et donc on voit ici aussi qu'il faut être Oler Bidrachav. Oler Bidrachav, c'est aller dans les voies d'Hachem, ce qu'Hachem a prescrit. Or, eux, ils sont idolâtres, donc ils sont pas Oler Bidrachav. D'abord, je vous dis, c'est des... Non, celui-là, c'est pas Kahneman, mais enfin, le reste, c'est aussi des... C'est plutôt des sociologues ou des gens comme ça, donc c'est pas Torah Moshe Emet. Donc, c'est une remarque. Mais on peut comprendre que le problème de la confiance, construire une société de confiance, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Et que plus on augmente le nombre de gens auxquels il faudrait pouvoir faire confiance, plus c'est difficile. Donc ça, c'est pas très difficile à comprendre. Je veux dire, on voit, il semble, certes, beaucoup disent que le problème d'aujourd'hui, c'est un problème de confiance. Et d'après ça, hein, c'est presque un problème obligatoire à partir du moment où on a ouvert, on a mondialisé. La confiance, ça veut dire quoi? Il faut avoir les mêmes, il faut avoir les mêmes raisonnements, ou enfin des raisonnements semblables pour qu'on puisse faire confiance à quelqu'un, si les mots ne veulent pas dire la même chose, si tout ça, c'est très très difficile. Quand on a un petit groupe de gens où c'est à peu près, où on sait à peu près que la Torah dit ton oui doit être oui et ton non doit être non, parce que si le oui ne veut pas dire oui et le non ne veut pas dire non, c'est difficile de construire des rapports de confiance. C'est même pas ce qu'on nous a dit, hein. Confiance à quoi? Donc c'est très difficile. Et d'ailleurs, on voit très bien que le problème, j'ai un peu l'impression que, c'est une question que j'ai déjà posée souvent, mais on peut se demander pourquoi dans la Torah on voit nulle part qu'il n'y ait jamais eu un essai de passer par-dessus la structure tribale du clan Israël. Nulle part on trouve une proposition qui dise peu importe de quelle tribu tu es, etc. Non, la Torah, même en Eretz Israël, on partage la terre en tribu, puis on continue de parler en termes de tribu, etc. Pourquoi on parle de tribu? On est tous frères. Pourquoi est-ce qu'il faut garder cette structure tribale? Au point que dans la Halakha, si on avait une ville dans laquelle il y avait des gens de deux tribus différentes, il fallait mettre deux tribunaux différents. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va se faire juger par un tribunal, on veut que quand il sort de ce tribunal, il soit complètement apaisé. Donc il ne faut pas qu'il sorte du tribunal et qu'il dise « mais ils n'ont rien compris, j'ai dit ceci, ils ont compris que j'avais dit ça, etc. » Il faut que ce soit des gens de chez moi qui ont le même accent, les gens pour lesquels les mots veulent dire exactement la même chose que pour moi. Sinon, je ne peux pas être vraiment apaisé, je ne peux pas vraiment être sûr d'avoir été compris, donc je ne peux pas être content. Et donc, nulle part, justement, on voit que la Torah a essayé de supprimer justement cette structure tribale, même quand elle était plus, s'imposait plus du tout. Peut-être effectivement que il faut garder peut-être des petits groupes. Parce que le problème de la confiance peut beaucoup mieux se construire avec des gens qui sont quasiment les mêmes que moi. C'est ça le problème.
Je veux dire,
elles nous appartiennent, mais elles ne nous ouvrent pas de grands mérites puisqu'on n'a rien fait pour les acquérir.
Il faut les acquérir.
Les faire siennes, si vous voulez. Non, parce que les travailler, c'est-à-dire pas simplement si quelqu'un a une tendance à la générosité, sa générosité, elle va s'adresser d'abord, par exemple, aux gens qui ont une tête qui lui revient. Il faudra travailler aussi pour qu'elle s'exerce dans des cas où la personne a une tête qui ne revient pas, justement, ou des gens qui font pas ce qu'on estime qu'ils devraient faire pour qu'on puisse les aider, etc. C'est comme ça qu'on acquiert réellement ces midot. Autrement, c'est un peu comme quand Chazal vous dit que le Yetzera Tov chez l'enfant, il ne vient qu'au moment de la bar mitzvah, mais on voit que très bien, les enfants qui font plein de bonnes choses, félicitez sûrement vos enfants quand ils font des bonnes choses, mais ils ont agi sans Yetzera Tov. Ils ont agi. Il y a quelque chose, mais ça ne s'appelle pas encore Yetzera Tov. C'est encore rien, ça. Rien, c'est-à-dire. C'est rien tant qu'on n'a rien acquis. On n'a pas acquis cette chose-là. Il va falloir la développer, la faire sienne. peut avoir quelque chose, mais le faire sien, c'est une autre affaire. On peut réfléchir à ça dans d'autres domaines aussi, y compris dans les domaines matériels.
Vous avez sur le programme, prochaine séance, donc après pourri, ça nous met donc au 17 mars.
Oui, oui.
Voilà.